Je vais vous installer. Je vais reprendre. Bon, vous avez les versets, comme ça, c'est clair. Donc, il n'y a pas plusieurs temples, mais un seul temple constitué de toutes les assemblées de croyants qui représentent l'Église universelle. Et Paul va nous exhorter à choisir la fidélité et la sainteté en opposition à toute souillure. Et cette exigence n'est pas une contrainte, parce que c'est une grâce que Dieu nous fait d'habiter en chacun de nous. Il n'y a pas plusieurs temples, mais un seul temple constitué de toutes les assemblées de croyants et qui représente l'Église universelle. Et c'est évident dans l'utilisation de l'image du temple dans la lettre aux Éphésiens. Éphésiens 2, verset 19-22. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Donc le symbole du temple fait place à la présence du Seigneur, qui est à la fois le bâtisseur et le temple. C'est un édifice qui est construit sur le fondement des apôtres et des prophètes. Et Jésus en est la pierre angulaire. Et c'est en lui que tout l'édifice va pouvoir s'élever. Et puisque le Christ bâtit le temple, il peut le bâtir en ses disciples. La résurrection de Jésus va assurer l'unité du nouveau temple composé du peuple de Dieu, c'est-à-dire de tous ceux qui confessent son nom. L'image du temple de Dieu illustre donc l'unité entre le corps exalté et le peuple de Dieu qui est en lui. Le nouveau temple est composé du peuple de Dieu et on retrouve cet accomplissement dans l'évangile de Jean lorsqu'il dit « Nous avons contemplé sa gloire ». Et c'est parce que la parole habitait parmi nous que nous avons contemplé sa gloire. Cette image est importante pour Paul. On a vu que l'attente d'un nouveau temple, c'était un concept eschatologique que Paul va appliquer à l'Église, puisqu'elle va hériter du royaume de Dieu au moment de la consommation. Et la venue du Saint-Esprit a créé l'Église à la Pentecôte. Dieu habite dans l'Église. Autant la repentance est une démarche individuelle qui va nous ouvrir la voie vers le salut, autant l'aspect communautaire n'est pas à négliger. Ainsi, l'Église est le nouvel Israël, et toutes les assemblées sont greffées sur Israël. En conséquence, juifs et païens vont constituer le temple de Dieu, où Dieu va manifester sa présence. Parce que l'Église est une réalité céleste, une unité entre le Christ et le peuple de Dieu. Et tous les chrétiens du monde entier représentent le corps de Christ, qui est à la fois l'Église de Dieu et son nouveau temple. Et la cité de Dieu se trouve dans les cieux, où nous recevrons un nouveau corps. Nous avons donc cette espérance qui va devoir nous pousser à refléter dans le monde ici-bas une réalité du monde à venir. C'est pour ça que les croyants sont appelés à être saints, parce qu'ils sont sanctifiés en Jésus-Christ. Cette image du corps, qui est le temple du Saint-Esprit, elle est particulièrement forte, parce que c'est dans le temple qu'on accède à la présence de Dieu, à la gloire de Dieu. Et la véritable adoration se fait par le Saint-Esprit que le Christ nous a donné. Et après la résurrection, les disciples d'ailleurs se sont rappelés l'enseignement de Jésus, dont le corps est le véritable temple. Un point de conclusion sur cette première partie, c'est que nous ne nous appartenons pas, puisque Christ nous a acquis pour son héritage. Et l'Esprit de Dieu ne peut pas habiter dans un lieu profane. Le croyant est appelé à dédier son corps à Dieu pour être son temple, en ayant été racheté à grand prix. Donc, on ne peut pas vivre comme bon nous semble. Jean Calvin a écrit « Il faut que la rédemption nous tienne obligés et serve de bride pour ranger à obéissance l'intempérance de notre chair. » Nous sommes appelés donc à glorifier Dieu dans notre corps et être le temple du Saint-Esprit, c'est un honneur pour tout croyant, mais c'est aussi une grande responsabilité. Parce que Dieu nous a consacrés pour lui être un temple. C'est-à-dire qu'il nous a ordonné gardiens du temple. Nous sommes les gardiens du temple de Dieu. Et la vocation de tout chrétien, c'est d'élever l'édifice de Dieu en rendant un bon témoignage, puisque l'Esprit de Dieu habite en lui. Sans oublier qu'il y a une sentence pour ceux qui souillent le temple et qui ne recherchent pas la sainteté. Dieu les détruira. Il n'a pas épargné Israël à l'époque de Jérémie. Et il accomplira sa parole, comme il a fait du temps des prophètes. Et souvent, on est un peu léger. Mais si on reméditait le prophète Jérémie, on comprendrait que Dieu, on ne plaisante pas avec Dieu. Être exigeant, c'est se séparer de toute souillure et choisir la fidélité et la sainteté. Et Paul ne nous parle pas sur un ton légaliste. Dieu nous exhorte au travers de Paul, parce que c'est une grâce. Et le rappel de l'Ancien Testament, c'est « choisis la vie ». Être le temple du Saint-Esprit, c'est être un reflet de la gloire de Dieu sur terre pour témoigner au monde la bonne odeur de Christ en tant qu'individu, mais aussi en tant qu'Église, corps de Christ, puisque nous sommes les pierres vivantes de cet édifice. Et ce témoignage va donner un avant-goût de ce qui nous attend au ciel, et on peut compter sur l'aide du Saint-Esprit pour honorer Dieu dans notre corps et être reconnaissant de la grâce qui nous fait d'être sa demeure. Donc Paul nous dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit, mais il nous dit que nous sommes aussi la bonne odeur du Christ. Et j'aimerais un peu méditer sur cette expression importante, qui est très parlante, qui nous amène à réfléchir. Tout d'abord à un texte des Évangiles que je vais bien détailler pour vous aider à comprendre cette expression de Paul. Alors on va parler d'une histoire des Évangiles très connue, mais qu'on est obligé de raconter à tout le monde, parce que c'est une histoire de femme, et que la Bible dit qu'il faut la raconter partout où on prêche l'Évangile. Et cette histoire, elle était intéressante, elle est racontée dans les quatre évangiles, avec plus ou moins de détails. Alors, pour trois, c'est Marie de Béthanie. Luc, on pense à une autre onction. Et donc, je vais un peu mêler les deux pour voir qu'est-ce que le Seigneur nous apprend sur la bonne odeur. Donc, l'histoire se passe dans le village de Béthanie, ce qui nous rappelle certains événements avec Jésus, puisqu'il y avait ses amis. Marthe, toujours en action. Marie, en train d'écouter. Quant à Lazare, on se dit qu'aujourd'hui, si Paris Match avait existé, il y aurait eu le choc des photos, avec le grand titre « Mort et ressuscité », parce que c'était un sacré événement. En tout cas, il s'est passé des choses bouleversantes dans cette petite ville, et des choses qui ont marqué les esprits, ça c'est sûr. Et Lazare est devenu célèbre, et sa présence faisait forcément sensation partout où il se trouvait. Je suis sûre que s'il passait dans la rue, tout le monde se retournait, un autographe, enfin il était devenu la célébrité. Et voici que Jésus est invité dans la maison de Simon, à Béthanie. Une maison particulière à la maison de Simon. D'abord, Simon, il est pharisien. Et puis, il est appelé Simon le lépreux. Alors, peut-être que c'est quelqu'un que Jésus a guéri et que le surnom rappelle la maladie passée. En tout cas, ça lui colle la peau. Il est forcément guéri, parce que s'il avait été atteint de cette maladie, il n'aurait pas pu recevoir d'invité. Puisqu'à l'époque, la lèpre, c'était synonyme d'impureté, de péché, et que les lépreux devaient crier « impur, impur » pour qu'on s'éloigne d'eux quand quelqu'un s'approchait. Ils étaient d'ailleurs isolés, ils habitaient à l'extérieur du village, et on évitait même de s'approcher d'eux. Alors Simon avait dû passer toute une partie de sa vie rejetée, parce que quand on avait la lèpre, on était mis à l'écart, comme un pestiféré. Sa peau s'était dégradée, sa peau avait été abîmée. Et je suppose que sa femme avait eu l'habitude de se battre avec les mauvaises odeurs. Imaginez quelqu'un qui a une mycose des pieds. Hein, c'est un petit truc invisible, mais imaginez la puanteur. Et la maladie de la lèpre imprégnait cette odeur de décomposition. Et peut-être qu'au début, avant de savoir que c'était la lèpre, une petite tache, essayait de fabriquer des crèmes, des choses qui sentaient bon. Et puis, il n'y a pas eu le choix. Il a dû être sans doute écarté, mis au ban de la société. En tout cas, Simon a gardé ce surnom, Simon le lépreux. Mais c'est dans cette maison-là que Jésus a été invité et il a accepté de s'y rendre. Et parmi les invités, il y avait sans doute Marthe qui aidait à la cuisine avec les autres femmes, puisqu'à l'époque, les femmes ne prenaient pas le repas avec les hommes. Et puis bien sûr, il y avait Lazare, puisque peu de temps avant, il avait été ressuscité. Et Simon était donc pharisien, connaissait bien la loi, les prophètes. Il devait sans doute l'interpréter. Et alors que tout le monde se mettait ensemble pour manger, alors que la soirée allait réussir, pendant que ces hommes s'installent au sol et se détendent, il y a quelque chose qui se passe dans une autre maison à Béthanie. Et j'imagine une femme qui fait des va-et-vient dans sa maison en cherchant ce qu'elle pourrait prendre et qui s'arrête devant un vase. C'est ce qu'elle a de plus précieux. Une année de salaire, nous dit la Bible. Et dans son cœur, elle devait se dire que le maximum qu'elle donnerait, ce serait le minimum. Parce que si elle en avait plus, elle en donnerait plus. Elle veut tout lui donner parce qu'elle l'aime. et qu'elle veut lui montrer son amour. Elle veut faire un geste qui marque. Et cette femme sort et imagine sans doute tous les obstacles qu'elle va devoir franchir. D'abord, entrer chez Simon le pharisien. Luc nous dit qu'elle n'avait pas une très bonne réputation. Elle ne fréquentait pas les pharisiens, bien sûr. Et peut-être qu'elle a imaginé ne pas y aller, faire demi-tour. Et puis, deuxième obstacle, elle va se trouver devant au minimum 13 hommes. Une femme au milieu de 13 hommes qui rentreraient dans une telle pièce. Et peut-être qu'ils vont se dire, mais qu'est-ce qu'ils vont penser ? Amour charnel ? Je suis amourachée avec la réputation qu'elle avait. Et puis, elle ne va pas pouvoir expliquer pourquoi elle débarque au milieu de ces bonhommes. Et est-ce que Jésus comprendra ? Est-ce qu'avec tous les péchés qu'elle a commis, est-ce qu'il comprendra ce qu'elle veut, ce qu'elle veut lui dire, lui démontrer ? Et sans doute tremblante, elle avance sur son chemin et va frapper chez Simon. Marc 14, verset 3 dit « Pendant qu'ils étaient à table, une femme entra. » Et je l'ai souvent imaginé, cette femme, devant la porte, en hésitant à franchir le seuil, avec sa tête pleine de doutes, de craintes, de pensées en tout genre. Et elle entre dans cette maison à l'heure du repas. Et souvent avec Jésus, l'ordinaire se prépare dans une scène de la vie quotidienne. Et c'est bon de se rappeler que Jésus, justement, s'intéresse à notre quotidien. Il n'y a pas forcément un ange là qui va descendre, mais elle arrive au milieu d'un repas. La situation la plus banale qui soit. Et Dieu s'intéresse à tous les moments de notre vie, même dans les choses les plus simples. Et quand la femme entre dans cette pièce, tout est bien installé, tout est bien nommé. Il y a un village, Béthanie, une maison, celle de Simon, un temps bien fixé, c'est le temps du repas. Des hommes allongés pour le repas, des règles de bienséance, les femmes sont en cuisine au milieu des odeurs. Tout est bien à sa place. Et puis il y a Jésus, bien installé, l'invité de Marc, bien accueilli. Et le temps passe. Et le repas est un moment de convivialité où on se détend, où on échange avec les autres. Et la femme va surgir dans ce groupe d'hommes, un moment mal choisi, pour faire un geste déplacé, exagéré. Mais c'est un geste spontané qui va aller, elle va aller droit vers Jésus et elle brise le vase. Et là, tout s'arrête. Imaginez la scène, l'odeur et l'expression sur tous les visages. Aucun de nous qui organise une fête n'aimerait voir quelqu'un débarquer et puis venir faire ce scandale. Il n'était pas rare que les convives à l'époque reçoivent une onction au cours d'un banquet. Mais l'emploi d'un produit aussi cher va témoigner d'une dévotion déraisonnable parce que tout le monde a reconnu justement l'odeur du nard et son excellente qualité. Et on va parler d'un sens ce soir qui n'est pas très prisé dans le milieu chrétien. Quand on est chrétien, il faut m'écouter, il faut voir, mais on ne parle pas trop de l'odorat. Donc on va parler de l'odorat ce soir. Puisque nous sommes le parfum de Christ, je vais y arriver. Sentir et ressentir, ce sont des sentiments qui renvoient aux émotions, aux intuitions, aux impressions. Et ces sentiments vont orienter nos choix, motiver nos actions. Quelqu'un écrit dans le livre des sens, « Pour faire vibrer les cordes du cœur, les odeurs sont plus sûres que ce que l'on voit ou que ce que l'on entend. » Ce récit de l'onction à Béthanie nous offre un bouquet de liens entre parfum et spontanéité, parfum et rencontre, parfum et offrande, parfum et excès, parfum et discernement, et parfum et mémoire. Et on va méditer un peu tous ces points. Après cet acte étonnant, l'odeur va se dissiper. L'odorat, donc, c'est le sens de l'intuition, de l'intime, du corporel. On utilise le parfum pour séduire, et on parfume même des stylos ou du papier aujourd'hui. Esther, dans l'Ancien Testament, s'est préparée pendant un an quand même. Pendant 6 mois, il est dit qu'elle s'est frottée le corps avec de l'huile de myrrhe, et les 6 mois après, avec des aromates et des parfums en usage parmi les femmes. Donc le premier point, c'est la spontanéité. L'odeur qui se répand dans cette maison où se trouve Jésus, c'est une belle image de cette spontanéité. Marc nous dit un parfum de nard pur de grand prix. Alors, selon la livre romaine, ça correspondrait à peu près à un demi-litre. Un demi-litre déjà de parfum, c'est extrêmement cher, mais le nard était encore plus cher. Le nard était une plante de l'Inde dont on pouvait extraire le parfum, produit de luxe, très coûteux, qu'on utilisait en particulier pour l'onction des défunts. Deux caractéristiques pour ce parfum: très cher et de qualité supérieure. Même si on imagine un an de SMIC, ça fait beaucoup. En tout cas, la différence entre l'eau de parfum et l'eau de toilette, c'est pas pareil. Et ce parfum, c'est aussi le grand prix que Jésus représente pour cette femme. Mais on peut penser aussi à Dieu qui nous dit: tu as du prix à mes yeux, la valeur de ce prix. Cette femme le distingue de tous les hommes allongés, elle va droit vers lui et elle le met à l'honneur. Et on ne sait pas ce qui a motivé cette femme pour faire ce geste. Mais pour Jésus, en tout cas, la personne est toujours unique et il va lui accorder de l'attention. Il va prendre très au sérieux cette intervention. L'odorat, c'est un sens chimique qui interprète des informations transmises à notre cerveau. Pareil qu'on a 5 millions de cellules olfactives et qu'il n'y a pas deux personnes qui aient la même série, du coup le même parfum, chacun va le sentir différemment. La rencontre maintenant. La femme verse le parfum sur Jésus et ça coule sur ses pieds. Et cette femme va sécher les pieds de Jésus avec ses cheveux. Alors l'odeur d'un parfum, c'est particulier, difficile à définir. Le parfum est passager, difficile à enfermer, difficile à reproduire. Et l'odorat, c'est la dimension de la rencontre de deux personnes. Si vous vivez un certain temps à l'étranger, vous savez à quel moment vous êtes proche de la femme, de la France par les parfums. Ah, ça m'est arrivé, c'est impressionnant, dans un aéroport, vous verrez qu'il n'y a que les Françaises qui se parfument comme ça et vous saurez que vous êtes très proche de votre pays. L'odorat marque la mémoire. Et si on réfléchit à la place de l'odorat dans les rencontres intimes, ça commence déjà dans le ventre de notre mère, puisque le liquide amniotique a l'odeur de la transpiration de la maman. Et que pour le bébé, un vêtement imprégné de l'odeur de sa maman va l'apaiser. Et quand quelqu'un dit « je ne peux pas le sentir », c'est que la rencontre est insupportable. Et dans certaines cultures, il y a même un lien entre l'odorat et la rencontre. Par exemple, dans une langue de Sibérie, le mot « embrasser » veut dire « sentir ». Et un baiser, en fait, c'est la manière de sentir longuement l'être aimé, un parent ou un ami. On cherche cette rencontre. Il y a même une tribu de Nouvelle-Guinée qui se dit au revoir d'une manière un peu particulière. C'est-à-dire qu'ils vont frotter sous les aisselles de tous les gens qu'ils aiment bien, puis après, ils s'en passent partout pour garder l'odeur. Et dans d'autres cultures, ben, on se renifle ou on se frotte le nez. Donc, vous voyez que sentir est vraiment associé à la rencontre. Donc, sentir l'être aimé, hein, c'est être pendant quelques instants dans l'illusion de sa présence. C'est sentir, prolonger cette présence. Alors, utiliser un parfum pour honorer Jésus, c'est habituel dans les coutumes orientales. Mais au moment d'un repas, ça, c'est pas habituel. Et en grande quantité, c'est ambigu. Qu'est-ce que ça veut dire? Reconnaissance? Amour? Et que vont penser les hommes de ce geste déplacé? De cette femme qui s'est amourachée de Jésus, peut-être? En tout cas, elle a pris un gros risque. Et sentir accompagne aussi la rencontre, comme ça accompagne notre respiration. Quand je sens, je respire. Et l'odorat est le seul sens qui va s'appuyer sur une fonction vitale. On peut sentir en étant sourd et aveugle. On peut vivre en perdant le goût des aliments. On peut perdre la sensation de toucher et vivre. Par contre, sentir, c'est respirer. Ça remplit mes poumons. Et si je ne respire plus, c'est que je suis mort. Donc sentir, c'est vital. L'offrande. Donc dans le geste de cette femme, c'est la dimension du don et de l'offrande qu'on va découvrir. Et ce qu'elle a fait dans un cadre profane dépasse toute l'histoire du parfum de la religion. Il ne faut pas oublier que les parfums ont d'abord été inventés pour le sacré. On embaumait les morts, on faisait l'onction des élus. Et dans le monde antique, que ce soit en Arabie, en Grèce, en Chine, en Perse, on offrait des parfums aux ancêtres, aux divinités. Et dans le parfum, il y a quelque chose d'invisible, d'impalpable, d'agréable qui stimule l'esprit. Dans toutes les religions, on utilise le parfum, brûlé ou pas. Et il monte vers le ciel où se trouve la divinité. Le parfum était important dans le culte d'Israël, puisque les sacrifices brûlés avaient une bonne odeur devant le Seigneur. Et l'offrande de parfum que l'on trouve dans le Lévitique 2 est l'image de la prière qui monte vers lui. Et le psaume 141 dit: que ma prière soit devant ta face comme l'encens et mes mains tendues comme l'offrande du soir. Dans l'intercession de la prière, c'est comme de l'encens. Et c'est dans cet héritage que la femme de Béthanie va s'inscrire par un geste d'offrande. Mais elle va dépasser l'offrande parce que cette offrande n'est pas faite dans un lieu religieux, le seul endroit où on faisait ces offrandes. L'offrande a lieu dans un lieu domestique, donc c'est une offrande inutile. Un geste d'adoration, en tout cas, qu'elle a fait dans la plus grande liberté. Et à partir de ce moment, à partir de ce geste, il va y avoir une rupture, un acte nouveau, et on va comprendre que désormais, l'adoration peut avoir lieu dans un lieu profane. Et Jésus dira à la femme samaritaine, « Ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, mais en esprit et en vérité. » Voilà les vrais adorateurs. Et cette rupture est symboliquement marquée par le vase d'albâtre qui est brisé. L'offrande est définitive, sans retour possible. Et peu après cette scène, Jésus fera de sa vie l'offrande offerte accomplie une fois pour toutes. L'Épître aux Hébreux nous dit « Christ s'est offert une fois pour toutes pour porter les péchés de plusieurs. » Donc une simple offrande de parfum va annoncer le drame de la croix, la rupture entre la tradition juive et la foi chrétienne. C'est une offrande excessive et les invités ont bien perçu cette rupture. Simon, qui est avec les disciples, est outré. Il dit rien, mais à l'intérieur, il n'en peut plus. Judas, lui, c'est pareil, il est prêt à exploser. Et il pense à l'argent perdu. On aurait pu donner tout ça aux pauvres, et peut-être qu'il se pensait avec les pauvres, l'hypocrite. Parce que l'évangile de Jean, c'est le seul endroit où il est dit que Judas était un voleur. Il avait la responsabilité de gérer l'argent de tout le groupe. Mais il est dit qu'il prenait souvent, le mot souvent, de l'argent pour son usage personnel. Et dans ce monde, gaspiller une telle somme d'argent, ce n'est pas possible, tout simplement. Et Simon, il ne peut pas se retenir, il se dit en lui-même, si cet homme était prophète, il saurait de quelle espèce cette femme. Mais Dieu connaît les pensées, et Jésus va lire vraiment dans tout ce qu'il pense, et va commencer une petite histoire. Il lui dit, Simon, j'ai quelque chose à te dire. Tu sais, il était une fois un créancier qui avait deux débiteurs, l'un devait une centaine d'euros, et l'autre quelques milliers d'euros. Et puis il lui dit, c'est bon, on y quitte, vous ne devez plus rien. Lequel est celui qui va aimer le plus? Évidemment, c'est celui à qui devait le plus. Tu vois cette femme, quand je suis entrée dans ta maison, il n'y avait personne pour me laver les pieds, pour m'embrasser. Pourtant, c'était la coutume de l'époque. Simon ne l'a pas fait. Mais elle, depuis qu'elle est entrée, elle ne cesse de me laver les pieds et de les embrasser. Et elle me frotte avec du parfum. Et il faut que tu apprennes quelque chose. Celui à qui on pardonne beaucoup, aime beaucoup. Quel gâchis l'offrande de parfum. Voilà ce que Simon et les disciples ont pensé. Et peu de temps après, on pourrait dire, quel gâchis aussi cette mort sur la croix. L'amour de Dieu passe par un don excessif et par la perte. On va avancer. Et Marc, en fait, dans son évangile, nous place devant la croix et il utilise le parfum comme support pour annoncer une offrande encore plus grande, un geste encore plus fou. Le parfum va se disperser, se volatiliser et voilà, on va passer encore. Quand le parfum se disperse et se volatilise, c'est qu'on se prépare à le perdre, parce que le flacon va se vider peu à peu. Le parfum meurt en se donnant, comme Jésus, alors que curieusement, il prend sens et vie au moment où il est répandu. Et enfermé dans un flacon, il est inutile un parfum. Et en s'échappant, il devient parfum dans l'excès et dans la perte. Et le parfum est donc l'image vraiment du don par excès. Parce que sentir un parfum, c'est capter seulement quelques-unes de ses molécules. Mais combien de molécules vont s'échapper, retomber et se disperser en pure perte pour que quelques-unes seulement soient senties et nous régalent. Le discernement. Jésus dit, laissez-la tranquille, elle a fait une bonne action à mon égard. Elle a mis d'avance du parfum sur mon corps afin de le préparer pour le tombeau. Parce que c'est à ça que servait le nard. à l'onction des défunts. Et puis il continue, les pauvres, quand vous voulez, vous pouvez leur faire du bien. Mais moi, vous m'avez pas toujours. Alors pour les rabbins, prendre soin des morts et donner de l'argent aux pauvres, c'était deux bonnes œuvres. Mais la première était plus importante que la deuxième. Il fallait d'abord s'occuper des morts. Et là, ils considèrent en fait comme une perte ce qui en fait est une bonne action. Leur souci des pauvres est admirable, mais ce n'est pas la priorité ce soir-là. Et Jésus discerne ce qui est juste et bon dans des conditions, dans des circonstances particulières. Et les invités chez Simon, eux, ils s'en tiennent au registre du financier, à l'éthique. Et Jésus va opposer un autre bien, embaumer le corps d'un défunt. Et les œuvres en faveur des pauvres seront vite oubliées. Par contre, il ne sera pas de même pour cet amour extravagant. Et quand on songe que plus de 2000 ans plus tard, on n'a pas oublié cet acte d'amour extravagant, c'était vraiment une bonne leçon que Jésus leur donnait. Donc il faut discerner entre ce qui est bon et ce qui est mauvais. Et d'ailleurs, quand on est devant une odeur inconnue, on peut avoir deux types de réactions. Soit on dit « Oh, ça sent bon !» Ou alors « Ah, ça pue !» Hein, voilà, on sent. D'une manière ou d'une autre, mais on sent. Et s'orienter dans la vie chrétienne, ben c'est pareil, ça demande du discernement pour reconnaître la volonté de Dieu. Comme les odeurs dirigent notre appétit vers ce qui est savoureux, vous mettez deux poissons, un qui pue, un qui a un bon arôme, et vous irez forcément vers celui qui sent le meilleur. Eh bien, notre esprit peut aussi nous aider, nous diriger vers ce qui est bon pour nous. En mémoire d'elle, alors dans cette maison, en tout cas, un message a été transmis, un message qu'on doit transmettre partout où on annonce l'évangile. Et là, l'expression qui est utilisée, cette bonne nouvelle, c'est une expression étrange dans la bouche de Jésus, parce qu'elle était employée dans l'évangile de Matthieu, en Matthieu 24, pour parler de la prédication au monde entier. Mais ici, il ne s'agit pas de l'enseignement de Jésus. Cette bonne nouvelle, c'est sa vie, et en particulièrement tous les événements de sa passion. Alors, dans la maison de Simon, des choses ont changé. Ce qui est sûr, c'est qu'il n'y avait plus la même odeur. Jean nous dit « Cette odeur avait rempli toute la maison ». Et ce parfum exprimait l'amour authentique de la femme, parce qu'elle avait reçu de Jésus le pardon et la paix. L'odorat a un lien avec la mémoire pour des raisons neurologiques. Dès qu'on perçoit une odeur, ça se diffuse au cerveau olfactif qui fonctionne en même temps que celui des émotions et celui de la mémoire. Et même inconsciemment, un parfum va déclencher un souvenir. Et je suis sûre que tout le monde, en sentant, hop, ça va le ramener dans un certain événement. Donc l'odorat, il a un accès direct au centre de nos émotions. Et le langage et la pensée ne viendront qu'après, parce que le centre du langage est situé à l'autre extrémité du cerveau. Temps de faire le chemin. Et ça explique le temps qu'on met quelquefois à nommer le lieu. On a une odeur, on dit « ça me rappelle quelque chose », mais il faudrait que ça traverse, voilà, de l'autre côté. Et là, on se souvient de quoi ça parlait. L'émotion, par contre, elle est immédiate, parce que, justement, ces deux sens sont vraiment proches l'un de l'autre, géographiquement, dans notre cerveau. En tout cas, on sait qu'on a cette odeur à mémoire, mais c'est plus difficile de l'identifier. Dans les prisons, il existe une thérapie par les odeurs, à Fresnes, par exemple. On met des odeurs de synthèse pour aider les gens à verbaliser, à parler. Parce que le milieu carcéral, il a peu d'odeurs, ou en tout cas pas de bonnes odeurs, sans doute pas. Donc Jésus dit qu'on racontera dans le monde entier, en mémoire de cette femme, ce qu'elle a fait. Et cette parole s'est accomplie, puisque dans le monde entier, ce qu'elle a fait, c'était préparer justement à nous annoncer la mort de Jésus. Mais il y en a un dans l'équipe qui ne tient plus, et c'est Judas. Et à la fin du chapitre 12 de Jean, d'ailleurs, après ce repas, il sera raconté l'entrée de Jésus à Jérusalem, monté sur un ânon qu'on va acclamer. Et au chapitre 13, c'est le dernier repas. Le dernier repas où Judas va trahir Jésus pour quelques piécettes d'argent. Et Jésus annoncera cette trahison, puisqu'il dira « Ce que tu as à le faire, fais-le vite. » Ce parfum, c'était donc la goutte qui a fait déborder le vase de Judas. La femme, elle a brisé son vase, et lui, Judas, il n'en pouvait plus. Cette femme a tout donné, et Judas a tout perdu. Marie de Béthanie a exprimé son amour, Judas a exprimé sa lâcheté et sa traîtrise. Et après ça, après ce repas, intéressant, immédiatement, la foule des Juifs vient devant la maison de Simon. Pas seulement à cause de Jésus, mais il est dit, pour voir Lazare ressuscité. Les principaux sacrificateurs délibèrent afin de faire mourir aussi Lazare, parce que beaucoup de Juifs s'éloignent de la tradition à cause de ce miracle et croient en Jésus. Donc, à la suite de ce repas, un complot va se tramer contre Jésus et contre Lazare. En tout cas, depuis le geste prophétique de cette femme, soyons-en sûrs, c'est que Jésus a une odeur. Qui connaît l'odeur de Jésus? Jésus sent l'amour. Et c'est pour ça que Paul nous dit que nous sommes la bonne odeur de Christ. 2 Corinthiens 2, 14 et 15. Grâce soit rendue à Dieu qui nous entraîne toujours dans son triomphe dans le Christ et qui par nous répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Nous sommes en effet pour Dieu le parfum de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Nous sommes un parfum de bonne odeur. Et Éphésiens 5, verset 2, « Imitez donc Dieu comme des enfants bien-aimés et vivez dans l'amour, tout comme le Christ aussi nous a aimés et s'est livré lui-même à Dieu pour nous en offrande et en sacrifice comme un parfum de bonne odeur. » Alors là, on va un peu méditer sur ces passages importants aussi. Alors la suite du passage d'Éphésiens parle de l'inconduite sexuelle, on peut penser aussi aux Corinthiens, de l'impureté sous toute forme, de choses choquantes, de propos extravagants. Le tout est assimilé à l'idolâtrie. Et la conclusion de tout ça, c'est que tous ceux qui pratiquent ces choses n'ont pas d'héritage dans le royaume de Dieu. C'est encore le jugement. Je vais parler d'un petit mot important. Dieu nous entraîne toujours dans son triomphe. Première ligne là-haut. Alors, on connaît les arcs de triomphe à Paris. Il y en a à Orange, dans le Vaucluse. Et le mot triomphe a fait couler beaucoup d'encre. Pour comprendre ce mot, il faut se retourner vers la littérature antique. À l'époque de Paul, que signifiait ce mot? Qu'est-ce que c'était un triomphe? Le triomphe romain avait deux buts. D'abord, glorifier le triomphateur, le général ou l'empereur. Et puis, glorifier le dieu qui a rendu le triomphe possible. C'est pourquoi, d'ailleurs, la procession romaine se termine dans le temple de Jupiter. Alors, le mot triomphe et tout cela, même famille, comme triomphal, s'applique uniquement, je dis bien, à cette procession finale avec ses détails bien connus. C'est-à-dire que celui qui triomphait avait des habits d'apparat utilisés uniquement ce jour-là. C'était une fête. Il y avait un ordre de défilé précis des participants. Le triomphateur avait son rôle à jouer. Il y avait un itinéraire précis à emprunter. Tout avait été méticuleusement programmé. Et il est dit qu'il nous entraîne. Il nous entraîne toujours. Qui est ce nous? Ce nous désignait toujours un vaincu et jamais le vainqueur ou ceux qui étaient associés au vainqueur. Donc, le triomphateur, c'était le général. Et le vaincu, c'était les prisonniers qui étaient amenés. Et la fonction de celui qui nous conduit au triomphe, c'était de révéler la gloire du triomphateur. Et normalement, d'ailleurs, la procession se terminait toujours par la mise à mort des captifs. Donc, en sachant tout cela, dans ce contexte gréco-romain, on peut dire que le triomphe dont il est parlé ici, c'est la victoire de Christ sur Paul. Le triomphe, c'est Christ, que Paul va célébrer tout au long de son ministère apostolique. Alors, c'était une image très parlante à une église issue du monde gréco-romain. C'était l'image d'un esclave qui était traîné dans toute la cité, ou d'un vaincu de Jésus-Christ, conduit à mort pour pouvoir révéler la gloire et la force de celui qui a triomphé sur lui. Et dans toute l'épître de 2 Corinthiens, Jésus-Christ est le vainqueur de Paul, et Paul n'est que le serviteur ou l'esclave à cause de Jésus. D'ailleurs, il dit qu'en tant que serviteur, il est sans cesse livré à la mort pour que la vie agisse dans la vie des Corinthiens. Et toute la polémique avec les faux apôtres est résumée dans cette image. Parce que dans cet épître, ceux qui se présentent comme des triomphateurs, ce sont des faux apôtres. Or, Paul, lui, se distingue comme un serviteur à l'exemple de son maître Jésus, le serviteur par excellence. Et à trois reprises, donc, Paul va parler de parfum de bonne odeur. Alors déjà, il y avait Philippiens 4, 18, qui parlait des dons que les Philippiens ont envoyés à Paul. C'était un sacrifice que Dieu accepte et qui lui sont agréables. Il y a ces deux passages, Éphésiens, c'est le don de Christ lui-même par son sacrifice. Et dans la Bible, chaque fois, le parfum de bonne odeur est directement lié à la notion de sacrifice. Ce qui nous rappelle un verset très connu, hein, Romains 12:1, offrir nos corps comme un sacrifice vivant, ce qui sera un culte raisonnable, agréable à Dieu. Là, ça fait référence au sacrifice de l'Ancien Testament, aux animaux. Et dans l'Ancien Testament, cette image du sacrifice, par l'expression parfum et odeur, était comprise à l'époque de Paul. Et Paul va s'inspirer de l'Ancien Testament, puisque dans la poésie hébraïque, les mots parfum et odeur sont des synonymes. Et l'image rabbinique de la loi est intéressante aussi, puisque les rabbins disaient que la loi était comme une drogue capable de donner soit la vie, soit la mort. Et Paul va reprendre cette image. Donc ces deux images, le triomphe et le parfum, vont renvoyer en fait à une seule idée. Le sacrifice est le centre de l'évangile que Paul prêche et son ministère apostolique, c'est nous prêchons Christ crucifié. L'image du triomphe est empruntée au vocabulaire courant de l'époque de Paul. Et l'autre image, l'odeur et le parfum, c'est une image de l'Ancien Testament avec le Lévitique. Et dans l'Épître aux Romains, dans ce verset dont nous offrons notre corps comme un sacrifice vivant, c'est pareil. Une partie, le sacrifice renvoie à l'Ancien Testament et le culte raisonnable renvoie au Nouveau Testament. Parce que c'était le vocabulaire de la culture grecque de l'époque. Et Paul montre donc la continuité de la foi chrétienne avec l'Ancien Testament et son importance dans notre monde contemporain. En tout cas, ce sont deux images très fortes, le triomphe et le parfum. Et Paul affirme que son ministère ne consiste pas seulement en une proclamation de la bouche, comme on peut le faire dans la rue, dans le témoignage. Son ministère, c'est aussi un ministère de souffrance qui, à sa manière, va proclamer l'Évangile. Et c'est comme ça que Paul va parler de sa mort prochaine comme d'une libation. Il caractérise sa vie, toute sa vie, comme une expression de la mort du Christ. Et il est amené partout en triomphe. L'homme violent, qui a été terrassé sur le chemin de Damas, se laisse mener en triomphe pour que vraiment toute sa vie passée soit traînée et que Jésus seul soit glorifié. D'ailleurs, il se décrira aux Galates comme une représentation de Jésus crucifié devant leurs yeux. Donc que ce soit dans son ministère ou dans sa vie, Paul va proclamer la puissance de la croix de Jésus. Et c'est cette connaissance de Christ que Paul répand comme un parfum de bonne odeur, et la façon dont il vit la réalité de la croix, elle fait partie de la révélation qu'il va apporter à l'Église. Éphésiens nous dit donc « Imitez Dieu, c'est une règle à imiter. Aimez-vous les uns les autres comme Christ vous a aimés. » On connaît bien ce verset. Il s'est livré, ayant une affection semblable envers notre prochain, pas qu'on soit parfait, mais la réconciliation des hommes faite par Christ a été un sacrifice de bonne odeur. Donc l'amour pour le Seigneur, c'est une chose concrète. Et ce n'est pas du sentimentalisme que d'aimer Jésus. Si on étudie ces textes, c'est quelque chose qui engage notre obéissance à sa parole. C'est quelque chose qui engage notre vie à surmonter des obstacles. Ainsi, notre corps est le temple du Saint-Esprit et nous sommes le parfum de Christ. Et notre vocation, c'est de répandre un parfum de bonne odeur. Alors, est-ce qu'on peut dire comme cette femme, « J'ai cassé le vase à tes pieds et tout ce que j'ai, c'est l'odeur, j'ai plus rien. » Ces expressions de Paul et le récit de l'onction à Béthanie peuvent en tout cas nous encourager à avoir des objectifs concrets de notre amour pour Jésus, des objectifs mesurables, pas à se mettre des montagnes, mais des objectifs mesurables, pas des bonnes pensées, trop de choses qui n'aboutiront jamais à rien. Et est-ce que quand nous respirons, nous sentons l'amour de Dieu? Le psaume 34 dit « Sentez et voyez comme le Seigneur est bon ». Donc on peut sentir. C'est un sens qu'on peut aiguiser. Et on peut être comme cette femme au pied de Jésus, aussi dans un acte d'adoration. Où on peut être simplement au moment de pousser la porte, d'hésiter et d'être prêt à faire éruption au milieu du repas. Un moment où tous les obstacles sont encore là, mais le psaume 18 nous dit « Avec mon Dieu, je franchis une muraille ». Et Dieu nous aide à franchir les obstacles. En tout cas, l'amour fait faire des choix. L'amour fait renoncer à beaucoup de choses. Et l'acte de Jésus sur la croix, c'est vraiment qu'il fallait être fou d'amour pour nous, pour aller jusque-là. Donc être le temple du Saint-Esprit, c'est sauvegarder l'unité de l'Église, c'est vivre dans la sainteté, C'est anticiper une réalité céleste. Et puisque nous sommes le temple du Saint-Esprit, nous dégageons la bonne odeur de Christ, le parfum de Christ. Alors, il n'est pas question de légalisme dans les exhortations de Paul, parce que si chaque croyant réalise le triomphe de Christ qui met à mort notre ancienne nature et qui le traîne partout dans la rue, en montrant que c'est lui qui peut se glorifier, eh bien, ça impacterait nos vies personnelles, nos temps de culte explosifs dans toutes les églises, dans tout le pays. Et devant la révélation de l'œuvre accomplie à la croix, le fait que notre corps soit le temple du Saint-Esprit, ça transformerait notre manière de parler, de s'habiller, de se débarrasser de toutes nos addictions. La puissance de Dieu est capable de nous transformer complètement, radicalement. Et souvent, on dirait qu'on veut un tout petit peu de parfum. Oh, mais le Seigneur ne me brusque pas et fait doucement. Mais le Seigneur peut faire radicalement, si on veut se laisser faire. En tout cas, des choses évidentes pour Paul. Lui, qui était violent, ça a eu un impact extraordinaire dans sa vie, puisque toute sa vie, il a laissé le triomphateur défiler dans les rues en exposant la défaite de sa vieille nature. Parce que le seul qui doit être glorifié, c'est Jésus. Il n'est jamais question de X personnes converties, X personnes baptisées ou guéries. Parce que le héros, c'est Jésus. Et toute gloriole humaine est ridicule en comparaison du triomphe de Jésus. Donc cette image du triomphe romain est vraiment importante à retenir. Et toute notre vie peut proclamer la puissance de la croix de Christ qui a vaincu le péché. Et en tout cas, par le témoignage de notre vie, on peut donner autour de nous un avant-goût de ce qui va arriver, de cette connaissance de Christ qui se répand comme un parfum de bonne odeur à ceux qui veulent la recevoir. Alors j'ai le temps de vous parler d'une dernière expression de Paul qui va bien dans ce thème, c'est l'expression « en Christ ». Paul parle souvent des chrétiens comme étant en Christ. Et ça, c'est une expression typique de Paul qui va utiliser plus de 200 fois. Donc Paul n'a pas l'habitude de radoter. Et s'il le dit souvent, c'est que ça veut dire quelque chose de très très spécifique qu'on va voir. Cette expression est très rare chez les autres auteurs du Nouveau Testament. Une fois chez Pierre, deux fois chez Pierre, quatre fois chez Jean et une fois dans l'Apocalypse. En tout cas, nulle part vous trouverez l'expression en Christ dans les évangiles ou dans les actes. Si c'est aussi souvent employé, c'est qu'il faut réfléchir. C'est que ça a une importance capitale. Et effectivement, si vous voulez prendre une concordance et examiner tous les passages où il y a en Christ, il y a quelque chose de capital à retenir. Alors on va d'abord voir le lien de la vie nouvelle et de la personne régénérée pour cette expression. Les prophètes ont annoncé l'état messianique et Jésus a inauguré une nouvelle époque du salut par sa venue, sa vie, sa crucifixion, sa résurrection. Et l'accomplissement reste à venir. Christ, il est le représentant du monde eschatologique puisqu'il est appelé le dernier Adam. Il y avait le premier Adam, chair, un os, et lui, c'est le deuxième Adam. Et c'est parce qu'il est en Christ que le croyant va devoir concrétiser cette vie nouvelle par un mode de vie et un service quotidien différent. Alors cette expression, elle a été contestée. Il y en a qui ont dit « en Christ, c'est une interprétation mystique, ça serait une sorte de fluide qui nous pénètre, qui nous entoure. D'autres ont dit « mais non, ça veut dire on est en Christ, on fait partie de l'Église. » Et une autre personne dit « c'est plutôt un langage familier par lequel les Hébreux expriment leur conscience et la solidarité de la race humaine et de l'influence des événements et des personnes du passé sur le présent. » Et l'expression parallèle qu'on va retrouver d'ailleurs en 1 Corinthiens 15, « en Adam », va montrer l'appartenance et la solidarité à deux humanités. Il y a ceux qui sont en Adam, ils sont asservis au péché, et puis ceux qui sont en Christ, ils appartiennent au nouveau siècle, qui nous a franchis, qui nous donne la vie. Et cette union va nous permettre de puiser constamment des ressources puissantes et inépuisables. Ça va nous permettre de goûter à toutes les bénédictions spirituelles octroyées à tous ceux qui ont été rachetés parce que nous sommes en Christ. C'est une image un peu comme le temple du Saint-Esprit qu'on pourrait appeler une métaphore. En tout cas, en Christ, il y a une localisation bien particulière. Quelqu'un a dit, c'est un théologien, Stewart, Christ est le nouvel environnement de l'homme racheté. Celui-ci a été arraché aux restrictions étouffantes de son sort terrestre pour être élevé en une sphère totalement différente, c'est-à-dire pour vivre en Christ. Il a été transplanté sur un sol et un climat nouveaux. Ce sol et ce climat sont Christ. Son esprit respire un élément plus noble. Il évolue sur un plan plus élevé. Donc, quand Paul parle d'être en Christ, c'est avoir une relation intime, indissoluble avec Jésus. Le croyant va s'identifier avec le Christ dans sa mort, dans sa résurrection, parce que Christ est la tête de son corps. Alors, il y a plusieurs sens de en Christ, hein. Je vous les énumère très rapidement. Appartenir au Christ et à son Église, c'est l'attitude conforme au Seigneur, une qualité de vie par rapport à Jésus-Christ, le fondement du salut, la communion avec le Seigneur, et puis l'unité dans la diversité. Et un passage très connu de Corinthiens 5, je vais vous lire trois versets. Cette même expression revient trois fois. C'est un passage capital, donc. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Et enfin, afin que nous devenions en Christ justice de Dieu. Trois versets très proches. Ce sens peut se résumer ainsi. Être en Christ, c'est vivre en Christ comme dans son élément, c'est plonger en lui par la foi toutes les racines de sa vie morale et spirituelle, et ça a des conséquences pratiques, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité, vous avez tout pleinement en Christ. Cette expression, elle n'est pas anodine pour Paul, elle est remplie de sens qui va orienter la vie du croyant, et Paul enfin, veut signifier que par l'intervention de Dieu, le croyant peut entrer en communion avec Jésus-Christ, s'approprier cette œuvre accomplie sur la croix, devenir nouvelle créature et participer à un monde nouveau. Il nous transforme à son image et lorsqu'on reconnaît tout ceci, notre vie est impactée. Ce n'est pas du tout doucement, c'est du radical. Et tout notre être, justement, est poussé à l'adorer, à le louer, parce qu'il est tout, il fait tout, il donne tout. Il est le fondement de la vie du disciple et le secret de la victoire de la vie par la foi. C'est aussi l'entrée dans une nouvelle réalité spirituelle, une nouvelle manière de vivre la présence et la puissance de Dieu. Alors, il y a deux aspects. Vous avez tout pleinement en Christ. Le chrétien, il est d'abord invité à recevoir le salut. Par la foi, il devient une créature, un enfant de Dieu, puis devient le temple du Saint-Esprit, comme on l'a vu. Dans le présent, il est le temple du Saint-Esprit, mais il reçoit aussi une nouvelle nature, une nouvelle mentalité qui va transformer sa manière de penser, d'agir. Il aura de nouvelles règles qui ne seront pas du légalisme, ce ne sera pas des principes moraux, mais une nouvelle manière de vivre dans tous les domaines. Et donc vivre en Christ, en fait, ce n'est pas chercher à y arriver par ses propres forces, mais c'est grandir et progresser tant dans notre vie personnelle, communautaire et dans notre service chrétien. Et le croyant et l'Église locale ont une vision confiante et positive du futur parce que c'est une espérance qui va nous donner de l'assurance que le royaume de Dieu est une réalité présente et aussi une réalité à venir. En Christ, on peut voir dès maintenant une partie des nouveaux cieux et de la nouvelle terre. En tout cas, c'est une nouvelle aide puissante qui va nous permettre d'entrer dans le combat de la foi, à vivre le royaume de Dieu. Et si on marche à la suite du nouvel Adam, les conséquences seront positives. Si on marche derrière le premier Adam, c'est le désespoir et la mort. Et Paul dit aux Romains, « Or, vous n'êtes pas sous l'emprise de la chair, mais de l'esprit, puisque l'esprit de Dieu habite en vous, si Christ est en vous. » Alors pour terminer cette série d'études, on avait commencé, vous vous souvenez, par Jonas. Jonas, ce n'était pas un héros. Le livre de Jonas nous montrait vraiment qui était le vrai héros. C'était Yahvé. Et puis dans le livre de Ruth, on a vu une personne qui est devenue une ancêtre de Jésus. On a découvert dans des choses très simples que Dieu pouvait se manifester et passer du vide à l'abondance. Avec Jérémie, nous avons eu cette promesse que Dieu graverait sa loi dans notre cœur et que le temple serait détruit parce qu'il y avait vraiment cette promesse. Et aujourd'hui, nous avons vu que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Donc, vous voyez, c'était une série d'études qui nous menait finalement vers Jésus-Christ, et que c'est lui le héros, c'est lui qui le triomphe, et que notre vie doit vraiment être sérieuse, être le temple du Saint-Esprit, c'est pas que des mots. En tout cas, que la puissance et l'amour de Christ se révèlent dans nos corps, temple du Saint-Esprit, pour que la gloire de Dieu soit un parfum de bonne odeur. Amen.